Réplique, héros et victimes, avec François Azouvi et Pascal Bruckner. Les victimes d'Auschwitz sont auprès de nous les délégués de toutes les victimes de l'histoire, disait Paul Ricoeur. Dans le monde où Auschwitz n'avait pas eu lieu en effet, il était encore possible d'être hegélien et de rendre raison de l'existence du mal. À Auschwitz est opérée la scission du logique et du tragique. Divorce irrémédiable, césure définitive. Dans le monde d'après l'extermination, l'histoire ne peut plus apparaître comme l'épopée du sens, la vérité en acte, l'accomplissement de l'esprit. Les victimes, autrement dit, deviennent inintégrables. On devrait se féliciter du fait que, selon la formule de Michel Foucault, le malheur des hommes ne soit plus un reste muet de la politique. Mais si l'on en croit les deux livres de François Azouvi et de Pascal Bruckner, « Du héros à la victime, la métamorphose contemporaine du sacré » et « Je souffre donc, je suis, portrait de la victime en héros », la juste réhabilitation des victimes a tourné à l'idéologie victimaire. Que s'est-il passé, François Azouvi ?
Je crois qu'il s'est passé deux ordres de choses très différents. Deux types de causes, comme auraient dit les scolastiques. Il y a eu d'une part Auschwitz, donc l'existence d'un groupe social, d'une population qu'il était extrêmement difficile de penser selon les catégories traditionnelles, les catégories anciennes, mais nous y reviendrons peut-être parce que précisément on a commencé par essayer de les penser sous cette forme, mais très vite on s'est rendu compte qu'il fallait forger une nouvelle catégorie pour les penser, et ça a été la catégorie de victimes. Donc, premier faisceau d'explication, l'existence des morts du génocide. Et puis, deuxième explication à laquelle je tiens, mais qui est d'un autre ordre, c'est le retrait du religieux. Je pense que les deux séries de faits se sont croisées. Il y a eu ce que Emmanuel Todd a appelé la crise terminale du catholicisme, c'est-à-dire l'effondrement final, terminal du christianisme dans les sociétés occidentales et en France. Et je pense que les deux séries de faits se sont croisées et ce sont elles qui expliquent cette dynamique de l'idéologie victimaire dont vous parliez.
Oui, mais alors, Lévinas dit « La disproportion entre la souffrance et toute théodicée se montre à Auschwitz avec une clarté qui crève les yeux. » La théodicée, c'est la justice de Dieu. C'est un néologisme forgé par Leibniz. Mais bon, ça, on le comprend. Mais pourquoi cela devient-il justement, François Azouvi, une idéologie ? Pourquoi justement de la victime passe-t-on au victimisme en quelque sorte ?
Je crois qu'à partir du moment où a été forgée cette catégorie de victime et que simultanément le religieux s'est retiré de notre société, on s'est trouvé aux prises, si je puis dire, en face d'une catégorie nouvelle qui était d'abord peuplée principalement par les juifs du génocide, et qu'il s'agissait de penser, et cette catégorie de victimes s'est déployée dans une société de laquelle le religieux et, d'une façon générale, les transcendances s'absentaient. Et on s'est trouvé donc dans une société d'où le religieux et le politique se sont absentés, et s'est mise en place alors une dynamique qui est celle de la victime, dynamique qui s'alimente d'elle-même. Il y a dans le processus victimaire quelque chose d'inhérent à la victime elle-même qui fait que d'autres catégories demandent à devenir des victimes, à être reconnues comme victimes, et s'ensuit un phénomène que l'on connaît maintenant bien, qui est la concurrence victimaire.
Oui, dont Jean-Michel Chaumont a très bien parlé. Pascal Bruckner.
Je dirais que la consécration de la victime est arrivé dans les années 80 quand, en France en tout cas, la figure du résistant a été éclipsée par celle du déporté, avec tous les films qui sont sortis à ce moment-là, et où donc l'épopée politico-militaire que la France gaulliste et communiste voulait inscrire dans l'histoire a été effacée par la figure du déporté, et l'habit du déporté est devenu à ce moment-là un habit de lumière auquel tous les citoyens ont voulu en quelque sorte se conformer. Il est curieux de voir qu'aujourd'hui, toutes les victimes officielles, celles en tout cas qui ont accès aux médias et aux réseaux, se comparent peu ou prou avec celles d'Auschwitz ou de la Shoah. C'est vrai du néo-féminisme, mais c'est vrai aussi des minorités, c'est vrai des Afro-Américains aux États-Unis, donc c'est cette concurrence victimaire dont vous parliez, François Azouvi, avec ce mécanisme très étrange, c'est-à-dire que la moindre contrariété, le moindre tracas, la moindre blessure sont immédiatement haussés au niveau du crime maximal. C'est donc une absence de proportion entre la blessure infligée et le sentiment ressenti. En revanche, je ne dirais pas, comme François Azouvi, qu'il y a un retrait du religieux. Là aussi, il me semble que le religieux est suspendu, en tout cas dans les pays occidentaux, et en tout cas en France, mais je vois dans le victimisme ambiant le triomphe absolu du christianisme et sa mainmise dans le monde entier, puisque il n'y a pas qu'en France que nous parlons de l'idéologie victimaire. Elle est parlée spontanément par tous les États, par tous les régimes. Elle est présente dans tous les conflits qui nous occupent aujourd'hui. Et en ce sens, je ne sais pas quel est l'avenir du christianisme, mais à mon avis, il est loin d'être mort. Mais en tout cas, sur ce plan-là, c'est une victoire par chaos.
Une victoire par chaos du christianisme, dites-vous, alors même que la désaffection des églises continue. Alors, que pensez-vous de cette interprétation, François Azouvi? Il est vrai que le Christ, c'est la victime, et qu'avec la figure du Christ, comme l'a montré René Girard, la victime vient presque remplacer le héros, ou en tout cas vient concurrencer le héros. Mais que s'est-il passé pour que vous parliez, vous, justement, de retrait du religieux, François Azouvi?
Je suis pas tout à fait d'accord avec vous quand vous dites que le Christ est la victime par excellence. Je pense que la victime, au sens où nous l'entendons, n'a pas réellement de place dans la Bible, et en particulier dans le Nouveau Testament. La place de la victime est occupée par le martyr.
C'est pas la même chose.
C'est pas du tout la même chose. Et il y a un couple qui fonctionne, qui est le couple héros-martyr, mais en réalité, on a affaire là à ce que j'appellerais un continuum d'héroïsme. Le martyr, et c'est en ça qu'il n'est pas une victime, le martyr est quelqu'un qui va au-devant de son supplice. Alors, l'exemple évidemment paradigmatique, c'est celui du Christ. Le Christ sait très bien ce qu'il attend, l'épreuve qu'il attend. Il ne se dérobe pas, il va au-devant de son épreuve. Il est martyr. Et rappelez-vous l'étymologie de martyr. Martyr, c'est témoin. Le martyr est quelqu'un qui témoigne. Et c'est bien la différence d'avec la victime. D'abord, la victime ne va pas au-devant de son sacrifice, elle le subit, et nous reviendrons certainement sur cette question parce qu'elle pose la question de la passivité, et c'est précisément cela qui a été long et difficile à construire et à admettre. La victime donc ne va pas au-devant de son supplice, et d'autre part, elle ne témoigne de rien. Lévinas disait, les victimes juives ne sont mortes ni pour la sanctification du nom, ni pour le combat antifasciste, ni rien de tout ça. Elles sont mortes pour rien. Et ça, c'est précisément ce qui différencie le plus profondément la victime du martyr. Et c'est pourquoi je pense que la victime n'a pas sa place dans...
Exactement, dans le christianisme.
Dans le christianisme.
Alors, d'ailleurs, quand vous dites cela, je pense à Maximilien Kolbe, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était un moine franciscain déporté à Auschwitz et qui s'est substitué à un détenu condamné avec 9 autres à mourir de faim en représailles de l'évasion d'un autre détenu. Maximilien Kolbe a remplacé. Et c'est très exactement un martyr.
C'est ça.
C'est pas, et or, c'est pas tout à fait une victime. Donc, avec ce qui se passe aujourd'hui, on est peut-être dans une société post-chrétienne, Pascal Bruckner.
Alors, il faut reprendre la lettre des évangiles. Le Christ, et c'est un esclave crucifié qui est le Fils de Dieu. Et c'est cette conjonction qui a tellement scandalisé les Romains. Je cite dans le livre le philosophe Cels qui dit comment un Dieu pourrait-il être un esclave qui témoigne pour les faibles, pour les opprimés, pour les humiliés. Et ça, au fond, c'est le message à long terme du christianisme. Et c'est vrai que les martyrs, tout au long de l'histoire chrétienne, ont témoigné pour la gloire du Dieu catholique ou du Dieu protestant, puisqu'il y a eu des martyrs dans les différentes versions du christianisme, plus chez les catholiques qui en ont fait une industrie. Non, mais c'est vrai. C'est la plus grande fabrique de martyrs. Maintenant, le catholicisme est concurrencé par l'islam.
C'est pas du tout les mêmes martyrs.
C'est pas les mêmes martyrs.
Parce que les martyrs, ils mouraient pour leur foi, alors que les djihadistes.
Là, ils meurent aussi pour.
Oui, mais ils meurent en tuant.
Oui, ils meurent en tuant.
Ça n'a strictement rien à voir. Ce sont des bombes humaines. Aucun martyr chrétien n'était une bombe humaine.
C'est sûr. Et c'est pourquoi je préfère les martyrs chrétiens personnellement. Mais, aujourd'hui, les victimes sont divinisées et c'est une auto-divinisation et c'est ça qui est intéressant. Donc c'est une idée chrétienne devenue folle, pour reprendre le terme de Chesterton, mais il n'empêche que c'est quand même une dérivation lointaine du christianisme. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant au fond, c'est que l'état de victime, c'est une nouvelle aristocratie. Ce n'est plus l'aristocratie de la naissance, c'est l'aristocratie du malheur qui vous est arrivé. C'est un club très fermé, c'est un club étroit auquel chacun voudrait accéder et dans lequel tout le monde voudrait demeurer. Et pourquoi ? Vous parlez de la désirabilité de la victime. Pourquoi veut-on absolument être une victime ? Parce que si on est sanctionné dans cet état, on échappe aux obligations qui sont celles de l'être humain, on n'a que des droits, on a très peu de devoirs, et c'est en quelque sorte une résurrection de son vivant. Le christianisme voyait la souffrance comme une rédemption du péché originel. Ensuite, on a réparé les souffrances grâce au droit, et ça a été un immense progrès. Et aujourd'hui, on a l'impression que l'idéologie victimaire permet aux gens de ressusciter de leur vivant et d'être sauvés. Donc c'est la forme contemporaine du salut. Et c'est ça, je trouve, qui est fascinant et inquiétant.
Alors, fascinant et inquiétant, mais la figure du héros a longtemps été présente quand même dans nos sociétés. Elle était présente aussi dans les années 60 et 70. Vous rappelez, François Azouvi, que l'hymne de la gauche prolétarienne, c'était le chant des nouveaux partisans. Nouveau fascisme, nouvelle résistance. Tout ça peut nous apparaître un peu infantile aujourd'hui, mais de quoi s'agissait-il pour notre génération ? Il s'agissait de nous montrer à la hauteur, d'être dignes de ceux qui nous avaient précédés et qui avaient connu les tempêtes de l'histoire. Je voudrais rappeler ici un très beau texte de Régis Debray. C'est au début de « Loué soient nos seigneurs ». Favori des catastrophes, nos aînés tenaient la corde. J'appartiens à une génération de série B, condamnée par un blanc de l'histoire au pastiche des destins hors série qui nous ont précédés, raflant le premier choix et nous laissant les doublures. Et il y avait quelque chose comme cela. Donc, on s'est raconté des histoires, en quelque sorte, pour à notre tour faire l'histoire. Et d'ailleurs, Sartre dit quelque part, le secret d'un homme n'est pas le complexe d'Œdipe, mais c'est son pouvoir de résistance au supplice et à la mort. Et nous pensions cela, nous nous demandions tous, aurions-nous résisté ? Aurions-nous tenu bon face à la torture ? C'était vraiment la question de notre temps, ça.
Absolument.
Et donc, on ne le savait pas. Donc, on a dit CRSSS. On l'a joué pour encore qu'une fois combler la distance avec nos aînés. Donc, l'héroïsme nous obsédait jusque dans nos fanfaronnades et nos analogies extrêmement douteuses. Mais alors, comment se fait-il, justement, que cette figure du héros, même sous cette forme parodique, est complètement disparu aujourd'hui. Ou alors, a-t-elle disparu d'ailleurs,
oui,
a-t-elle disparu?
Elle n'a pas totalement disparu. Je pense que l'héroïsme est une constante anthropologique qui est susceptible de ressurgir. Et on le voit aujourd'hui, on le voit avec les femmes iraniennes, on le voit en Ukraine. Bon, l'héroïsme n'a pas disparu et je suppose qu'il ne disparaîtra jamais. Mais il a perdu sa valeur, il a perdu sa valeur exemplaire. Et quand vous citiez tout à l'heure 68 et la suite, enfin l'idéologie révolutionnaire dont vous parliez, je pense que vous avez mille fois raison. C'est effectivement l'héroïsme y était extraordinairement présent, la volonté d'héroïsme y était présente, mais je pense que à l'époque où il s'exprimait, c'était déjà une survivance. Je crois pouvoir dire que en réalité, au niveau global de la société, il s'est effondré très vite après la Seconde Guerre. Après la Première, il avait subi une éclipse, ou du moins, il avait subi une profonde transformation, qu'on a appelée pacifisme, transformation qui s'explique parfaitement bien, et il n'a pas résisté, en quelque sorte, à la Seconde Guerre mondiale. Passé les premières années de la libération, où il a été, dans la foulée des événements et de la guerre, il a été encore célébré, mais très vite, il s'est usé. Et il a survécu dans la forme que vous disiez. Il faut se rappeler, par exemple, enfin, vous le savez comme moi, mais que le comité France-Vietnam avait décidé, lors d'une manifestation célèbre, de rebaptiser le boulevard Saint-Michel, boulevard du Vietnam héroïque. Bon, je suis pas sûr que ça ait énormément aidé les Vietnamiens, mais en tout cas, l'intention était celle-là. Donc, c'est vrai qu'il a survécu sous cette forme, et probablement, je dirais que la date de décès de ce dernier héroïsme, c'est le milieu des années 70, c'est-à-dire le moment où l'idéal révolutionnaire s'effondre.
Oui, alors vous l'avez dit, je pense que la chute de l'héroïsme pour notre génération, c'est-à-dire la génération 68, a été le discrédit du militaire, c'est-à-dire que nous n'avons cessé de dénoncer l'armée française comme étant une armée coloniale, une armée qui avait perdu face à l'allemand, qui a été sauvée par la résistance.
Et la résistance était des héros.
La résistance était des héros, mais on a fait la distinction entre les francs-tireurs qui prenaient les armes et les soldats professionnels qui étaient souvent des bourreaux. Les guerres coloniales ont achevé de discréditer cet idéal-là. Et nous étions certains, après 1989, que la figure du héros allait le céder à la figure du marchand, du commerçant, du diplomate, du négociateur, et que les peuples allaient ranger les armes au nom de l'enrichissement collectif et de la démocratie parlementaire. Et puis, il est arrivé, le 11 septembre 2001, il est arrivé les attentats du Bataclan, et moi je vois que depuis 10 ans, ça va bientôt faire 10 ans, la figure du héros entre en concurrence avec celle de la victime, tout simplement parce que nous ne pouvons plus nous payer le luxe de n'être que des victimes passives qui attendent les coups en courbant la tête et en demandant la reconnaissance de leurs contemporains. Les héros reviennent en masse, et ce qui m'étonne, c'est à quel point dans les médias on note les actes héroïques. Les hommes qui se jettent à l'eau pour sauver un enfant, les femmes qui sauvent des gens en perdition dans un incendie. Et petit à petit, j'ai le sentiment qu'entre ces deux figures, il y a un point d'équilibre qui peut être atteint, puisque nous vivons dans un état de guerre interne avec le terrorisme islamiste, externe avec la guerre en Ukraine.
Alors, justement, oui, François.
J'ai envie de vous répondre.
Oui,
je vous en prie. Je ne vois pas cette très urgence du héros. Je vois très bien les événements auxquels vous faites allusion, et vous avez raison de les souligner et de montrer que il ressuscite, il ranime une sorte de flamme et d'admiration. Oui, certainement. Mais ça demeure une goutte d'eau dans l'océan de la victimisation. Tous les phénomènes majeurs de notre temps, qu'il s'agisse de MeToo, qu'il s'agisse du wokisme, qu'il s'agisse de l'intersectionnisme, etc. Enfin,
l'intersectionnalité.
Sectionnalité, voilà. Absolument. Bon, tous ces phénomènes qui font la une des journaux et qui nous occupent sont des phénomènes où la victime a la part belle et pas le héros.
Oui, mais il y a un retour du courage quand même.
Il y a peut-être. Oui, alors justement.
Ça, c'est une valeur qui est en train de revenir. Et y compris à gauche, et je crois que c'est très important de le souligner.
Alors, Dieu vous entende, si je puis dire.
J'ai l'oreille de Dieu. Est-elle jamais partie, quand même? Je cite Voltaire. on avait espéré, effectivement, avec les Lumières, se débarrasser de l'idéal chevaleresque. Voltaire, j'appelle grands hommes ceux qui ont excellé dans l'utile et l'agréable. Les saccageurs de province ne sont que héros. C'est vraiment le génie de Voltaire. Et d'ailleurs, l'imagerie des Lumières s'enchantait du contraste entre le piéton Fénelon interrogeant en bon père les paysans qu'il rencontrait lors de ses promenades et ce roi équestre et caparaçonné qu'était Louis XIV. Mais quand on y réfléchit aujourd'hui, si on demande à quelqu'un, disons, d'un tout petit peu cultivé, quels sont les grands hommes du XXe siècle ? Les noms qui viennent, peut-être je me trompe, c'est Marc Bloch, c'est Jean Moulin, c'est Pierre Brossolette, c'est à un autre niveau De Gaulle et Churchill, c'est aussi Sadat et Rabin, et c'est le philosophe Jan Patočka, mort, philosophe tchèque, mort après un interrogatoire de 9 heures de la police, en pleine normalisation, comme on disait. Donc, si vous voulez, on a quand même l'impression que le héros n'a jamais vraiment quitté notre imaginaire. Ou est-ce que je me trompe, Pascal Bruckner ?
Oui, je pense qu'il y a une schizophrénie. C'est-à-dire que dans une région de notre esprit, nous célébrons les héros, ceux que vous avez cités, Alain Finkielkraut, même si dans notre vie quotidienne, nous préférons le registre de la plainte, nous aimons à nous considérer comme des victimes, nous aimons à voir autour de nous des ennemis, et à reprendre la phrase de Nietzsche, je souffre, quelqu'un doit en être la cause. Donc je pense que...
Et ça c'est une phrase où Nietzsche critique, justement.
Oui, bien sûr, oui.
C'est la force du nietzschéisme.
Oui, il explique...
C'est le ressentiment qui commence comme ça.
Il explique l'état d'esprit. Mais, et donc, l'héroïsme demeure en tant qu'idéal, et c'est pourquoi, très spontanément, nous le retrouvons. Et je pense qu'il faut distinguer deux choses. Les actes héroïques dont chacun d'entre nous peut être capable au cours d'une existence, et le héros en tant que tel. Et parce que l'héroïsme aussi est une idéologie ambiguë. On voit bien l'usage qu'en a fait l'Allemagne nazie, on voit bien l'usage qu'en fait aujourd'hui la Russie, où tous les soldats sont considérés comme des héros, même lorsqu'ils tuent, même lorsqu'ils violent, même lorsqu'ils détruisent. Et donc, un peuple ne peut pas être constitué que de héros. C'est épuisant, l'héroïsme est un devoir surhumain, et il faut aussi plaider pour une certaine mitoyenneté humaine. Mais on ne peut pas enlever dans la société la nostalgie d'un geste ou d'un acte qui peut hausser chacun d'entre nous au-dessus de lui-même. Parce que finalement, la beauté de l'héroïsme, c'est la grandeur humaine, c'est-à-dire se dépasser et sortir du petit cercle étroit de ses soucis et de ses tracas.
Se dépasser... Oui. Jusqu'à mourir pour. Oui. C'est quand même le comble de l'héroïsme. François
Zouvier. Oui, bien sûr. Non, bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec la façon dont vous caractérisez le héros. Mais vous disiez Alain Finkielkraut tout à l'heure, vous citiez Jean Moulin, vous citiez Brossolette, etc. Mais on peut aussi citer un héros beaucoup plus récent, qui est le colonel Beltrame.
Ah ben voilà. Voilà. Je suis content, j'allais vous poser la question.
Ben oui.
Arnaud Beltrame. Alors que s'est-il passé? Racontez un peu, parce que peut-être les gens ont-ils déjà commencé à oublier, même si c'était en 2018.
Ben, Beltrame, c'est ce soldat qui s'est porté au devant des terroristes et qui s'est proposé en échange à l'un des otages et qui a été évidemment exécuté. Mais bon, c'est un héros sans aucune hésitation, bien sûr, mais ce qui est tout à fait significatif, c'est la façon dont il a été honoré. La plaque qui a été apposée initialement, parce qu'ensuite elle a été retirée.
Ah bon, quand même elle a été retirée.
Oui, parce que ça a fait un tollé. La plaque qui avait été apposée initialement au jardin où il est mort comportait cette phrase, Arnaud Beltrame, tué le je ne sais plus combien, victime de son héroïsme.
C'est extraordinaire.
Ce qui est extraordinaire. C'est une phrase qui est faite pour nos deux livres,
oui,
Pascal Bruckner.
Bon, voilà. Mais alors, en même temps, c'est une manière de ne pas désigner l'ennemi aussi. Victime de son héroïsme,
oui, alors
qu'il était la victime de l'islamisme.
Il y a aussi ça. Il y a aussi
d'ailleurs,
certainement.
C'est la volonté de vivre dans un monde sans ennemis.
Oui,
c'est
vrai. Exactement. C'est une manière de réconcilier toutes les idéologies contemporaines sans jamais se faire aucun ennemi. parce qu'il est, on peut dire que c'est une lubie,
oui.
L'héroïsme, on l'a pris comme une lubie.
C'est ça.
Et il en est mort, le pauvre.
Ben oui.
Et évidemment, on ne désigne pas son assassin, parce que je crois que c'était un assassin, un seul homme qui l'a tué. Mais heureusement, ça a été corrigé, ce qui est très bon, oui, signe. Vous voyez, ça va dans le sens de ce que je pense. Je pense que la critique de l'idéologie victimaire, d'abord, il faut montrer que l'idéologie victimaire fait du mal aux victimes. Ça me semble très important de dire que si on s'enferme dans le cercle étroit de ces blessures, on a beaucoup de mal à en sortir. Je vais citer juste un exemple parce que je crois que c'est important. Dans le très beau livre de Nashino, où elle dit que, bon, elle raconte qu'elle a été victime de pédophilie pendant 7 ans de la part de son beau-père.
Inceste de la part de son beau-père.
Inceste, voilà. Hein. Elle dit, je ne suis pas une victime.
Oui.
Et donc, ce livre qui s'intéresse justement à ce qu'il y a dans la tête du bourreau est un livre qui, à mon avis, peut aider beaucoup de gens et beaucoup de femmes, parce que précisément, Nashino ne sombre pas dans cette idéologie, parce qu'elle voit bien à quel point c'est une sorte de paralysie de la volonté et de la liberté que d'enclore les gens dans leur propre souffrance.
Alors, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous sur le diagnostic, encore une fois. Mais est-ce que c'est elle qui représente l'air du temps, ou est-ce que c'est elle ou Samantha Geimer qui dit « Voilà, j'ai été violée, mais c'est derrière moi, c'est fini, les comptes sont apurés et on passe à autre chose. » Est-ce que c'est elle qui représente l'esprit du temps, ou au contraire, celle qui dit « Mais non, vous avez été victime et vous le demeurerez, demeurez-le. »
Oui, mais l'esprit du temps, on peut le modifier. Moi, alors, c'est ça mon
espérance.
C'est l'espoir de votre livre.
Alors,
justement, interrogeons-nous sur l'esprit du temps. Idéologie victimaire, élargissement de la catégorie de victime, et le néo-féminisme a ceci de différent du féminisme ancien, justement, qu'il s'inscrit d'abord dans le registre de la plainte. C'est-à-dire, MeToo, moi aussi j'ai subi une agression sexuelle, moi aussi j'ai été violée, je demande justice. Plainte donc, et non projet, ce qui vous conduit à dire, l'un et l'autre, que c'est une attitude post-politique, voire post-historique. Société de plaignants, mais là-dessus, je m'interroge, en voyant ce qu'il en est, du néo-féminisme et du wokisme, de toutes ces studies qui sont autant de cahiers de doléances. Est-ce qu'elles ne sont pas porteuses d'un grand projet en réalité, notamment pour ce qui concerne le néo-féminisme? Il s'agit d'atteindre à l'avenir radieux de la transparence, de l'égalité totale entre les êtres, en finir avec l'ambivalence, avec l'ambiguïté, avec la complexité des rapports amoureux. Mona Choëlet, réinventer l'amour. Et Caroline de Haas qui nous explique que les porcs sont malheureux, mais leur vieux monde va finir inexorablement. C'est-à-dire, c'est quand même l'annonce d'un monde nouveau. Et aussi, dans le wokisme, on vise l'homme blanc occidentale, vous avez écrit là-dessus Pascal Bruckner, mais précisément pour créer un monde nouveau et une nouvelle histoire. Il y a un agenda dans tout ça, Pascal Bruckner.
Alors, ce qui caractérise le wokisme à mes yeux, c'est son pessimisme historique. C'est-à-dire que quand on regarde les principaux théoriciens ou théoriciennes, on voit qu'il n'y a pas de rédemption possible. Et en ce sens, évidemment, on est très loin là du christianisme. C'est une apocalypse sans révélation, sans épanouissement. Donc, aux États-Unis, les Afro-Américains seront racisés éternellement, les Blancs seront toujours racistes, les hommes opprimeront les femmes pour l'éternité. Il n'y a pas d'entente possible entre les uns et les autres. L'amour est un contresens absolu que les femmes commettent quand elles s'éprennent d'un homme. Ce pessimisme historique débouche sur une certaine forme de nihilisme qui est contestée d'ailleurs aux États-Unis de plus en plus par un certain nombre de gens, et notamment par des intellectuels afro-américains qui voient dans le wokisme une forme subtile de racisme de la part des élites blanches libérales, maintenant en quelque sorte les afro-américains, les latinos ou d'autres minorités, dans un statut d'infériorité perpétuelle, puisque de toute façon la souffrance subie dans le passé obère toute espèce de projet historique, pour parler comme Alain Finkielkraut. Et dans le féminisme, de la même façon, les hommes et les femmes resteront à jamais deux tribus hostiles qui doivent se séparer et ne se parler que par l'intermédiaire de leurs avocats. Donc il n'y a plus d'avenir possible, et je pense que ces idéologies marquent la fin de l'idée de progrès et de l'idée de futur. Il n'y a plus de futur.
Vous êtes d'accord avec ça, François ?
Oui, cette fois je suis entièrement d'accord avec vous. Je pense que toutes ces formes de victimisation enferment, ont pour commun dénominateur d'enfermer les victimes à l'intérieur d'elles-mêmes. Il y a dans les rapports humains une projection vers autrui, en principe, tandis que le mouvement victimaire ferme les victimes sur elles-mêmes. Et donc, j'ai du mal, mais peut-être que je me trompe, et après tout, rendez-vous dans 50 ans, on verra qui a raison, mais j'ai du mal à penser que ces mouvements victimaires puissent déboucher sur une forme de vivre ensemble relativement sereine.
Non, relativement sereine, non, mais ils croient déboucher sur quelque chose. Alors, je donne sa formulation exacte au propos de Caroline de Haas: les porcs et leurs alliés s'inquiètent, c'est normal, leur vieux monde est en train de disparaître, très lentement, trop lentement, mais inexorablement. Et venons-en même à l'antiracisme. Vous avez raison, tous les deux, l'antiracisme contemporain fige les choses. Robin DiAngelo, que vous citez l'un et l'autre, qui est éducatrice en diversité aux États-Unis, elle dit le racisme blanc, il ne s'effacera jamais. Une identité blanche positive est un but intrinsèquement raciste. Les blancs n'existent pas en dehors du système de la suprématie blanche. Donc les blancs sont condamnés à présenter leurs excuses pour jusqu'à la fin des temps. Sauf que, même ça, il y a un projet. Il y a un projet, c'est-à-dire le projet d'une disparition des blancs en tant que tels. Il y a quelques semaines, j'ai lu tout de même un numéro de Libération extraordinaire qui ouvrait lui aussi sur un avenir radieux: tous métis, et alors? Dans 50 ans, nous serons tous métis, ça voudra dire qu'enfin, il n'y aura plus de blancs. Donc ce mal, à tous les sens du terme, aura été effacé de la terre. Donc je vois quand même dans tout cela un projet délirant, mais un projet.
Parce que vous êtes... Pardon.
Non, mais je vous rassure, Alain, même quand nous serons tous devenus des métis, nous aurons en nous la mauvaise part, la part blanche, qui sera dénoncée. Vous savez, les métis sont l'objet d'un double racisme en général, de la part de toutes les communautés. Ils sont dénoncés comme étant pas assez ceci et trop cela. Alors, c'est un projet qui peut paraître délirant et lointain, mais ce que je vois surtout, c'est que l'antiracisme tel qu'il s'est développé dans la théorie critique de la race aux États-Unis, avec Robin DiAngelo que vous avez cité, et qui est par ailleurs, faut pas l'oublier, elle est multimillionnaire, c'est-à-dire que c'est un business, l'antiracisme. Cet antiracisme ne peut pas se passer des blancs. Donc, n'ayez aucune inquiétude, il faut qu'il reste, sinon, qui va-t-on montrer du doigt pour expliquer le malheur, le mal-être, les divisions actuelles? Il faudra donc peut-être cultiver, même payer des poignées de blancs pour qu'ils demeurent sur la sellette et dire: regardez les salauds, c'est à cause d'eux qu'on souffre.
Oui, d'accord, mais d'un autre côté, on aura le sentiment malgré tout que l'histoire avance, et qu'on vous dit aussi que les hommes et les femmes sont condamnés par cette idéologie victimaire à s'affronter, à se regarder en chien de faïence, ce n'est pas l'espérance portée par ce néo-féminisme. C'est quand même l'idée d'un rapport humain guéri. Il y a quand même, par exemple, le patriarcat. On s'en prend un patriarcat, mais avec l'idée qu'on va en sortir. Moi, je pense qu'on en est sorti depuis longtemps. Mais c'est l'idée qu'on va en sortir. Donc, voilà, l'avenir est ouvert, Pascal Bruckner.
Il est ouvert, mais de façon bien sombre. Moi, je pense que dans le déclinisme, dans le catastrophisme, dans le néo-féminisme, l'horizon est bouché. Ces femmes ont besoin du patriarcat, elles le ressusciteront au besoin pour continuer à l'accuser. Et puis, admettons que le matriarcat remplace le patriarcat, serions-nous mieux lotis? Là, je pose la question. Je crains que malheureusement, nous n'échangions une tutelle pour une autre.
Ah oui, non, mais ça c'est possible. Non, c'est un projet historique. Le jour où il sera atteint, c'est comme toutes les révolutions, ce sera pas forcément terrible. Françoise Ouvier.
Oui, écoutez, moi, je suis tenté à l'évocation de cet avenir radieux que vous évoquez, Alain Finkielkraut. Moi, je suis tenté de reprendre la vieille formule. Nous serons tous égaux, mais il y aura quand même des gens qui seront plus égaux que d'autres. Je ne crois pas à cet avenir radieux. Je ne crois pas à sa possibilité. Je crois qu'il y a dans ces mouvements quelque chose d'intrinsèquement cumulatif qui fait qu'il faudra toujours, et je suis d'accord là-dessus avec Pascal Bruckner, il faudra toujours rechercher la menue différence. Et puis, je voudrais tout de même aussi souligner un autre point qui me paraît très significatif et important, c'est que dans cette nouvelle échelle de Richter de la victimologie, les Juifs n'ont plus de place.
Ah oui.
Ils ont disparu de cette olympiade de la souffrance. Dans les mouvements les plus avancés que vous avez évoqués tout à l'heure, ce sont plus les Juifs qui sont en tête. Ce sont les femmes noires, homosexuelles et éventuellement dotées d'autres infirmités, si je puis dire. De plus,
D'autres discriminations,
oui, mais ce sont pas les Juifs. Les Juifs sont devenus blancs.
Ils sont devenus blancs et même cette victimologie semble s'être retournée contre les Juifs, Pascal Bruckner.
Oui, alors c'est toute l'histoire de l'après-guerre quand à la figure du déporté au pyjama rayé s'est substituée celle de l'Israélien colon et brutal.
Il y a eu un petit moment.
Il y a eu un moment de grâce.
Pionnier.
Oui,
pionnier qui était admiré en tant que tel. Mais ça a duré jusqu'en 1967.
Et d'ailleurs avec des liens très étroits entre la France et Israël, faut jamais l'oublier. Ça, puisque c'est la France qui a aidé à la construction de la bombe atomique israélienne. Mais aujourd'hui, ça s'est complètement retourné et à la judaïsation du palestinien s'est substituée la nazification d'Israéliens dont sont responsables, pour les gens qui partagent cette idéologie, tous les juifs du monde entier. Ce qui explique qu'on voit tant de croix gammées sur les synagogues, tant de menaces adressées aux différentes communautés juives dans les pays occidentaux. Et cette destitution du juif vient évidemment de son idéalisation précédente. On avait fait la victime de toutes les victimes, et maintenant il est le bourreau de tous les bourreaux. Il est abominable, il est effroyable. Son projet est un projet génocidaire. C'est l'utilisation du mot génocide à propos de ce qui se passe à Gaza qui me paraît, moi, complètement déplacé, parce qu'un génocide, c'est tout à fait autre chose. Il peut y avoir des crimes de guerre, il peut y avoir toutes sortes de fautes terribles, mais celui qui s'empare du mot génocide s'empare du sens de l'histoire et peut alors condamner absolument son adversaire et le discréditer à tout jamais.
Et vous citez d'ailleurs une phrase terrible, Pascal Bruckner, « Le monde ne pardonnera jamais Auschwitz aux Juifs ».
Oui, c'est la phrase d'un sociologue israélien, qui est une phrase géniale, c'est-à-dire qu'effectivement, le renouveau de l'antisémitisme, qui est évidemment une passion très ancienne, s'est faite aujourd'hui grâce à la Shoah. C'est-à-dire que la Shoah est devenue une tunique de Nessus qui se retourne contre les Juifs, et donc c'est le supplicié d'hier qui devient en quelque sorte le barbare d'aujourd'hui qu'il faut dénoncer. Et on hait les Juifs parce que précisément ils portent en eux cette mémoire d'Auschwitz qu'on voudrait leur ravir. Et on voit bien qu'aujourd'hui toutes les minorités, les Afro-Américains, les Palestiniens, certaines féministes, pas toutes heureusement, ne cessent de dire la Shoah, c'est moi, c'est pas vous, c'est plus vous, fini.
Il paraît que vous citez un chercheur qui a comparé Adèle Haenel, qui a subi peut-être les attouchements de Christophe Ruggia, un cinéaste, à Primo Levi.
Je le cite parce que, à ma connaissance, Adèle Haenel n'a pas démenti. Mais effectivement, c'est énorme. C'est énorme, c'est tellement gros. Il ne s'agit de minimiser ni les agressions sexuelles, ni les viols, parce que ça, c'est abominable. Mais il y a quand même une gradation dans les atteintes à l'être humain, et n'est pas Simone Veil qui veut, n'est pas Primo Levi qui veut, n'est pas Robert Antelme qui veut. Il y a des gens qui ont traversé l'enfer, et même dans le, même dans la souffrance, il y a des gradations, nous le savons tous. Nous avons tendance à nous plaindre du moindre bobo, mais on ne peut pas qualifier ces blessures-là, les comparer aux crimes contre l'humanité subis par les Juifs et les Tziganes pendant la Seconde Guerre mondiale, ou par les Arméniens entre les mains des Turcs, ou par les Tutsis entre les mains des Hutus. C'est une obscénité.
Ou par les Cambodgiens entre les mains des Rouges, oui. Ou par les Biafrais, les Ibos, que vous citez d'ailleurs dans votre livre, Françoise Ouvier. Alors, une précision quand même pour les auditeurs. Je crois personnellement que la critique d'Israël, de la politique israélienne, est légitime et parfois nécessaire. Ce qui peut effectivement inquiéter, c'est la forme prise par cette critique. Cette guerre à Gaza est-elle légitime? Est-elle menée correctement? On peut s'interroger, mais parler de génocide alors qu'il y a deux acteurs, quand même, il y a deux acteurs dans ce génocide. Les Ibos n'étaient pas des acteurs, les Cambodgiens n'étaient pas des acteurs, et les Tutsis non plus. Ils étaient de pures victimes. Cette hâte à plaquer le mot de génocide révèle quelque chose, en effet, de l'ordre d'un nouvel antisémitisme, Françoise Ouvier.
Et d'ailleurs, vous venez de prononcer le mot de hâte. Ce qui m'a frappé quand je regardais ces textes, justement, c'est en 1967, après la guerre des Six Jours, la rapidité avec laquelle, justement, cette accusation, les Juifs sont des nazis, survient. On a l'impression que l'accusation était toute prête, et qu'elle était préformée en quelque sorte, et que à la première occasion, elle se manifeste. En quelques jours, quelques semaines au pire, je puis dire, les pamphlets surgissent pour montrer à quel point le parallélisme entre les Israéliens et les nazis est fondé.
D'ailleurs, vous avez des citations tout à fait extraordinaires, Françoise Ouvier, dans votre livre. Notamment un prêtre disciple de Massignon, Joachim Moubarak, l'occupation sioniste de Jérusalem est douloureuse aux chrétiens d'Orient, comme le fut pour ces mêmes chrétiens l'occupation nazie de Paris en juin 40. La plus grande victoire du bourreau sur la victime n'est pas de l'exécuter, mais d'en faire un bourreau. Nous sommes vraiment au lendemain.
Et vous voyez la date, oui, c'est ça. Oui.
La date,
c'est tout de suite.
Tout de suite, c'est absolument. C'est... Vous citez aussi un pamphlet de Pierre Desmeron,
oui.
Je crois qu'il dirigeait Marie-Claire à l'époque, dans mon souvenir.
Et un pamphlet de Jean Bobéraud.
Et un pamphlet de Jean Bobéraud.
Ce qui est
exactement dans le même sens.
Mais oui, oui. Mais oui.
Pascal Bruckner.
Il y a aussi une citation extraordinaire de Georges Montaron, qui était directeur de Témoignages chrétiens, dont plus personne ne connaît cette revue aujourd'hui. C'est une revue très importante de la gauche catholique, et qui explique que Jésus habite en Palestine, et qu'il a évidemment pris les traits du fédayine, du palestinien. Et là, tout ça illustre, je pense, tout à fait la fameuse phrase de Vladimir Jankélévitch, écrite en 67, où il dit « L'antisionisme est une aubaine. Si on peut prouver que les Juifs sont des nazis, alors, effectivement, nous n'avons pas à nous inquiéter de ce que nous avons fait. Tout cela a été justifié. En quelque sorte, on anticipait la métamorphose des Juifs en nazis. Et donc, soyons antisionistes, soyons antisémites. C'est la bonne marche de l'histoire. » Bon, il le dit autrement, mais je le cite de mémoire. Mais
il le dit très, très tôt. C'est ça qui est...
Il le dit en 64, je crois.
Oui, dans 64, une, exactement. C'est ça. Oui, il le dit avant l'inversion du bourreau.
Il le dit très tôt parce qu'il était hypersensible à cette question.
Ben oui.
Alors, je voudrais revenir à la question du héros. Parce qu'à très juste titre, Françoise Ouvier, vous remontez à la guerre de 14. Mmh. Quelque chose s'est passé à ce moment-là. Et en préparant l'émission, j'ai rouvert un livre absolument génial de Ernst Jünger, Le Travailleur. Parce que le héros, c'est quand même celui qui accède à la gloire, à la renommée, à l'immortalité même, par sa bravoure, par ses exploits, par sa mort même, par la grandeur de sa mort. Or, que dit Junger du soldat inconnu, le héros de la guerre de 14? Le héros, c'est-à-dire, il est porteur d'un maximum de vertus actives, le courage, la disponibilité et l'esprit de sacrifice. Mais, ajoute Junger, et ça fait terriblement peur, sa vertu réside dans le fait qu'on puisse le remplacer et que derrière chaque tué, la relève se trouve déjà en réserve. Tout d'un coup, ce qui caractérise le héros, c'est pas le caractère unique de son acte, c'est justement sa remplaçabilité. Il n'y a plus rien d'unique. Est-ce que ça n'a pas porté un coup, peut-être fatal, à la figure du héros? François Azoulay.
Je ne suis pas sûr de la réponse que je peux apporter à cette citation. Junger est assez atypique quand même, pour qu'on ait du mal à dessiner une configuration autour de...
Non, Junger est atypique, mais ce qui est très typique, c'est le soldat inconnu.
Oui.
Le héros, c'est celui qui accède à la reconnaissance. Et tout d'un coup, avec 14, ce sont des héros anonymes, inconnus, et qui ne cessent de se remplacer les uns les autres.
Oui, alors, vous avez raison, le héros est inconnu, et il sera remplaçable. Mais il n'est pas inconnu aux yeux de Dieu. Et il sera assis à la droite du Père. Et ça, en 14, tous les chrétiens le disent et le répètent à l'envi. Le héros aura une vie immortelle. Donc, oui, inconnu à nos yeux, mais promu à la vie éternelle. Et c'est ça qui a fait la force, je pense, ou en tout cas en partie, la force de la mobilisation de 1914 et son succès, mais c'est aussi ce qui s'est usé très vite.
Oui, c'est-à-dire que, effectivement, pour abonder dans le sens de François Azoulay, le soldat en 1914 a été remplacé par les masses. Or, les masses n'ont pas de visage. Et ce qui faisait la beauté du héros dans l'Iliade et l'Odyssée, c'est que le héros meurt transfiguré, il doit mourir jeune, pour échapper à la corruption, à l'oubli, à la monotonie de la vie. Et ensuite, il va auprès des dieux où il est célébré. Et on voit bien d'ailleurs que dans l'Odyssée, cette vision irénique est transformée, puisqu'en fait, Achille est très malheureux dans le royaume des morts et regrette d'avoir quitté la vie si jeune. Mais le soldat qui est tué au front, il n'existe plus. Et les Ukrainiens, aujourd'hui, ont tenté de résoudre cette contradiction. Quand vous allez à Kiev, dans la Laure de Kiev, qui est une grande métropole religieuse, qui est donc au fondement de la religion orthodoxe, vous avez les photos de tous les morts. Et il y a eu des dizaines, peut-être des centaines de milliers de morts. Et la tentative de Zelensky, je ne sais pas s'il y parvient, c'est à la fois de célébrer l'héroïsme du peuple, mais de donner un visage et un nom à chacun des soldats tombés. Et donc, il y en a évidemment le mur des photos s'étend avec des fleurs, mais tout État en état de guerre est pris dans cet étau entre l'identification personnelle de chaque personne morte au combat et en même temps l'idée qu'il faut évidemment des dizaines de milliers de combattants pour contenir l'ennemi, alors que les Russes ne le font pas.
Et d'ailleurs, dans l'après-guerre, dans l'après-1918, l'institution des monuments aux morts a joué ce rôle. Elle a eu rôle absolument capital dans la mémoire de la guerre.
Il y avait des noms.
Voilà, c'est ça.
Comme la mémoire des victimes du terrorisme.
Oui, exactement.
Sont honorées par des plaques.
Oui, c'est vrai. Alors, pour finir, et pour en revenir une dernière fois à la victime, parce que dans la réhabilitation de la victime, il y a eu aussi une réhabilitation de la passivité, avant l'idéologie victimaire, avant que l'idéologie victimaire ne s'empare de tout ça. Et là, je voudrais vous citer les réflexions de Béatrice Berlewitz dans Le Messager européen sur l'expression « comme des moutons à l'abattoir ». Qu'entendaient-ils dans les ténèbres de leur fourgon, sinon les hurlements des ordres émis dans une langue incompréhensible et qui n'étaient pas destinés à la communication avec eux ? La comparaison des Juifs avec les moutons ne signifie pas que les Juifs avaient régressé vers un état inférieur, elle signale bien au contraire et le retrouvaille dans l'arche de tous ceux qui furent immémorialement déclarés aptes à l'expérience radicale de l'inhumain, ce qu'on appelle la passivité juive, c'est peut-être la nappe phréatique de l'humain à laquelle les nazis ont attenté de façon irréversible. C'est un peu ça aussi.
Mais c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Là, on est au cœur du phénomène. Cette idée des Juifs qui sont allés au supplice comme des moutons à l'abattoir, ça a été le leitmotiv de la réflexion sur le destin des Juifs. Et c'est là qu'il a été difficile, et c'est ce qu'on peut suivre, c'est là qu'il a été très difficile d'admettre la grandeur de la passivité. Parce que jusque-là, justement, on était dans le modèle héroïque, dans le martyr, ce qui revient au même, et il a fallu se convertir à l'idée qu'il pouvait y avoir de la grandeur dans la passivité. Et là, il me semble qu'il y a un jalon qui est très important, c'est le roman de Schwarzbach, Le Dernier des Justes.
Absolument. Pascal Bruckner.
Oui, alors on peut opposer à cette passivité le témoignage de Marek Edelman, que j'avais rencontré à Sarajevo en 93, qui lui, constatant que le ghetto se vide de ses habitants et que les Allemands massacrent à tout va les femmes, les enfants et les vieillards, décide avec quelques centaines de camarades de prendre les armes, non pas pour vaincre, mais dit-il, pour ne pas mourir en étant assujetti à l'ennemi. Il s'en est sorti, il est resté en Pologne, donc c'est évidemment une autre option, mais on ne peut pas se permettre, nous, de faire la leçon aux gens qui ont connu la Shoah. Mais si nous regardons notre propre cas, je dois dire que dans les démocraties gâtées et favorisées où nous vivons, nous-mêmes, nous faisons preuve de beaucoup de passivité face aux événements. Et mon espoir, je répète ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que la réalité nous serve de maître, de leçon de choses pour nous réveiller de cette passivité et pour nous éveiller à l'endurance, au courage et à la force.
Cette passivité n'est pas celle des moutons à l'abattoir, mais c'est une passivité en effet problématique. Pascal Bruckner, je rappelle le titre de votre livre, « Je souffre donc je suis, portrait de la victime en héros ». Ce livre est publié chez Grasset. François Azouvi, vous avez écrit « Du héros à la victime, la métamorphose contemporaine du sacré » chez Gallimard, dans la collection Les Essais. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Corinne Amard et Lise Ripoche, à la réalisation François Connac, à la technique aujourd'hui Nicolas Mathias. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre Israël, Palestine, un conflit sans fin. Mes invités seront Jean-Pierre Filiu et Gilles Kepel. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.